Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours ce que Rousseau aurait dit de la Chine actuelle, en compagnie de Pierre Folliet, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Tristan Grenassia et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation internationale, aujourd'hui Mydia Portis-Guérin, à la lecture démocratique Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son public Emmanuel Morse-Duncan. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui demandera aujourd'hui à Yves Saint-Omer en quoi le travail de la démocratie est un travail de pluralisation. Et de démocratie, il en est question chaque jour de cette semaine au Nouveau Chemin, à l'occasion d'un colloque qui se tient en ce moment même à Cerisy, en l'honneur du travail de Pierre Rosanvallon autour du thème de la démocratie au travail. Et nous avons saisi cette occasion pour réfléchir ensemble à la démocratie, à la fois dans ce qu'elle a d'idéal et de pathologique, c'était le sujet de l'émission d'hier avec Florent Guénard, mais également dans la façon dont elle est mise en œuvre, ou peine à être mise en œuvre, dans d'autres pays que la France. Cette mise à l'épreuve des principes et des modèles au contact des faits et des réalités contemporaines, c'est le programme de cette semaine. Et ainsi demain, Johan Okant réfléchira pour vous sur la démocratie suédoise en se demandant ce qu'elle peut avoir de modèle pour les autres pays. Jeudi, Leïla Dakti s'interrogera sur les démocraties naissantes dans les pays arabes. Et aujourd'hui, c'est la sociologue, directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS, Isabelle Thirault, qui vient se demander si, contre toute attente, il n'y aurait pas des germes de démocratie, des germes rusés en territoire chinois.
Sur les campus des universités chinoises, l'information est soigneusement filtrée. C'est grâce à ces murs d'affiches, les Dazibao, que la liberté d'expression peut s'exprimer. À l'université Beida, la plus importante de Pékin et le fer de lance de la contestation, des milliers de personnes, pas uniquement des étudiants, viennent chaque jour aux nouvelles.
Je crois que les étudiants chinois maintenant se réveillent. C'est aussi la première fois que les étudiants n'osent se révolter contre la corruption publiquement, au public. Ils croient qu'ils ont le droit d'exprimer leurs idées au gouvernement et au public. Et maintenant, le peuple chinois se réveille aussi.
Gare aux troubles faits. Les journaux, les sites internet et les dissidents notoires sont étroitement surveillés depuis des semaines. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. C'est que tous les 5 ans, le Congrès se veut une démonstration de force, sans aucune note discordante.
J'espère que ce Congrès sera celui de l'union, du succès et de l'enthousiasme.
Tous sont venus voir et écouter l'homme le plus puissant de Chine, Hu Jintao. Celui qui depuis 5 ans dirige à la fois le parti et le pays et qui sera reconduit sans problème pour 5 années supplémentaires. En 2h30 de discours, il fixe le cap. Que la croissance économique soit forte, c'est très bien, mais elle doit être plus équitable et plus respectueuse de l'environnement. Un rêve d'harmonie sociale où le parti serait débarrassé de ses brebis galeuses.
Il faut sanctionner résolument et sans complaisance la corruption des cadres du parti. Il s'agit d'une question cruciale qui influence l'évolution de l'opinion publique. La survie du parti en dépend.
Bonjour Isabelle Thirault.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
D'abord, la place Tiananmen en 89, une contestation étudiante qui est réprimée très violemment, puis bond dans l'histoire en 2007, avec l'ouverture du congrès du Parti communiste. On entendait le président actuel, Xi Jinping, insister sur sa volonté de maintenir le parti en ordre et de se débarrasser des brebis galeuses. Est-ce qu'on peut voir dans ce dialogue-là, ce discours-là, le signe que laisse déjà voir l'événement de 89 place Tiananmen, de l'échec du processus de démocratisation en Chine?
Il y a plusieurs réponses à votre question. C'était Hu Jintao donc, qui parlait tout à l'heure, en 2007, qui prononçait ce discours. Et il signalait effectivement d'abord l'importance de la question de la corruption en Chine, déjà mise en avant par les protestataires sur la place Tiananmen en 89 et qui est aujourd'hui le principal cheval de bataille de Xi Jinping, l'actuel président de la République. Mais pour répondre à votre question, ce n'est pas... C'est l'échec ou c'est l'impossibilité actuelle d'une forme d'espace de revendication démocratique. Mais il existe d'autres espaces qui nous sont moins familiers, dans lesquels des citoyens ordinaires prennent la parole, des espaces que l'on peut dire infra-idéologiques, mais qui sont récurrents, quotidiens aujourd'hui en Chine, et qui me semblent avoir à faire avec des exigences ou des attentes démocratiques.
Donc ce que vous dites, c'est que si la démocratie n'est pas en œuvre de manière institutionnelle en Chine, il ne faut pas pour autant fermer les yeux sur une autre réalité qui est celle de la constitution d'une forme d'espace plus public dans lequel les citoyens chinois pourraient vivre l'émergence d'une démocratisation.
Oui, en tout cas, il signale et il participe à l'émergence de formes sans lesquelles je pense qu'une démocratie ne serait pas possible. Je reprendrai ici volontiers l'expression d'espace public intermédiaire qui a été conçue par l'historien et sociologue Alain Cottereau. Et selon lui, les espaces publics intermédiaires sont des espaces publics entre, on va dire, l'attachement aux communautés, au local et le national. Ce sont des espaces dans lesquels on peut mettre en avant, exprimer, organiser la confrontation entre des principes de légitimité différents. Ce sont des espaces où il y a des face-à-face au quotidien et où la façon dont on imagine les concitoyens anonymes peut être mise à l'épreuve de ces confrontations en face-à-face. Et ce sont notamment des espaces aussi, les espaces publics intermédiaires, des espaces où on peut sortir d'une forme de maladie du soupçon. Et il y a ainsi de nombreux espaces en Chine, encore une fois, qui ne nous sont pas familiers, donc que nous ignorions souvent, mais qui sont tout à fait importants, tout simplement parce que ça peut être des espaces où les gens se parlent au quotidien, une parole horizontale, j'ai envie de dire, entre des proches, des familiers, mais aussi une parole avec des inconnus, des anonymes. Ça peut être aussi un espace comme l'espace de parole adossé à l'administration des lettres et des visites, où les citoyens ordinaires interpellent les représentants du parti et de l'État.
Alors vous parlez en connaissance de cause, puisque dans votre ouvrage, coécrit avec Roy Linshan, un ouvrage intitulé « Les Russes de la démocratie protestée en Chine », qui est paru au Seuil en 2010, je crois, vous explorez la constitution de ce qu'on pourrait appeler ces germes de démocratie en Chine et donc en régime autoritaire. Et finalement, c'est comme l'exploration d'un paradoxe, comment une institution, celle que vous venez de citer, l'administration des lettres et des visites, qui a servi au Parti communiste à instaurer son pouvoir, a pu se transformer en un espace de contestation. Et votre travail porte sur cet aspect-là qui permet peut-être de nuancer les jugements qui opposent totalement le régime, le Parti communiste chinois à toute forme de démocratie, puisqu'il y a une forme d'espace public qui existe et qu'il a été investi d'une certaine manière par les citoyens chinois. Alors peut-être que c'est de cette manière-là, donc non pas en prenant en compte le gouvernement, mais l'existence sociale des individus, que l'on peut penser l'émergence d'une démocratisation.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Donc très très vite, cette administration dite des lettres et des visites, elle est créée suite à la directive, à une directive de Mao en mai 1951. Ce sont des bureaux qui se mettent en place de façon progressive, de la capitale vers les gouvernements provinciaux, gouvernements municipaux, puis les cantons. Ce sont des bureaux qui se mettent en place et qui accueillent toutes sortes de témoignages oraux. Donc les citoyens chinois, seuls ou de façon collective, vont rendre visite, un peu comme on rend visite à des parents, à des proches, vont rendre visite aux représentants locaux du parti et de l'État en remontant dans l'échelle administrative si localement ils estiment qu'on tarde trop à leur donner raison ou bien qu'on ne donne pas du tout de réponse à leurs requêtes. Et puis on peut également s'adresser à ce réseau de bureaux par voie de lettres. Et c'est vrai que cette administration des lettres et des visites se met en place au moment où, très rapidement après la création de la République populaire de Chine en 1949, et le nouveau pouvoir politique s'inscrit notamment dans une certaine perception ou compréhension de la lutte des classes. Et l'administration des lettres et des visites est notamment destinée à pouvoir recueillir des informations, des dénonciations, des délations concernant à la fois des proches, des ennemis du peuple qui seraient passés entre les mailles du filet, mais également des représentants locaux du parti de l'État qui transgresseraient les directives centrales. Cette administration, cet espace de parole que le gouvernement chinois pense alors effectivement destiné surtout à permettre au gouvernement chinois d'être informé des réalités sociales et à intervenir comme arbitre dans certains conflits, à la grande surprise du gouvernement chinois, dès 1955-56, ceux qui sont pris à partie dans les lettres, dans les visites, ce sont pratiquement, en grande majorité, ces représentants locaux du parti et de l'État.
Et c'est-à-dire qu'en fait, cet organe qui a été créé par le parti s'est retourné contre lui.
Complètement. Et c'est un problème qui perdure encore aujourd'hui. Cet espace de parole qui a connu une histoire mouvementée depuis 1951, mais qui n'a cessé de s'étendre, qui est massivement investi aujourd'hui par le citoyen chinois, encore une fois à titre individuel ou collectif, cet espace embarrasse le gouvernement chinois et il y a quelques mois, de nouvelles interdictions ont été prononcées en Chine contre les plaignants. Pourquoi ? Cela veut bien dire qu'ils embarrassent le gouvernement chinois et notamment pourquoi ? Parce que, et cela les responsables de bureaux de lettres et de visites aujourd'hui en Chine le disent nettement, on n'avait jamais anticipé que nous deviendrions la cible de ces critiques puisqu'on critique des représentants locaux du parti de l'État en se tournant éventuellement vers Xi Jinping, vers les plus grands dirigeants de l'État en disant « Vous êtes également responsable de ce qui nous est fait en votre nom par ceux qui vous représentent au niveau local ».
Alors, prenons un cas particulier. Je vous propose d'écouter une lettre tout de suite, une lettre donc qui a été envoyée à cette administration des lettres et des visites. La personne qui a écrit la lettre se plaint de la privatisation d'un passage public. Écoutez.
« Respectez Monsieur le maire. » Mon fils, Ma Wei, vous a écrit au début du mois de juin pour évoquer et contester le fait que la résidence des Chinois d'outre-mer considère désormais comme sien un passage jusqu'alors public. Aujourd'hui, deux responsables du comité de résidents sont venus voir mon fils pour lui remettre le document que la résidence a écrit en réponse aux questions des responsables du service juridique. Il est dit dans le document que des problèmes de sécurité existeraient si des individus désœuvrés et sans fonction précise pouvaient aller et venir à leur guise dans ce passage. Cette affirmation ne peut constituer une justification pour la fermeture de cette voie. Ces individus sont aussi des citoyens de notre pays. Ils ont le droit d'aller et venir comme bon leur semble. La résidence dit qu'elle ne fait que répondre aux souhaits de ceux qui ont acheté un appartement. Les Chinois d'outre-mer ont vécu pendant longtemps à l'étranger. Ils ont bénéficié d'une éducation moderne. La démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme sont profondément gravés dans leur corps. Est-il possible que, de retour dans le pays natal, ils rejettent toutes ces idées progressistes ? Bien sûr que non. Je pense avoir le droit de vous écrire cette lettre. Je suis une citoyenne de notre République, je suis membre du parti. D'après la Constitution et la Charte du Parti, j'ai le droit d'émettre des critiques envers les autorités supérieures. Je connais la vérité, je connais aussi les sentiments du peuple et j'ai donc décidé de vous écrire. J'ai confiance en notre parti, confiance en notre gouvernement. Je suis sûr que nous parviendrons à lever les barrières érigées par la résidence. Respectueusement, Ma Lina.
Isabelle Thiroux, ce qui est fascinant dans cette lettre interprétée par le comédien Jean-Louis Jacopin, c'est de voir la liberté que prend la personne qui écrit la lettre pour adresser des doléances au parti, tout en jouant le jeu du respect du parti. Ça, on va revenir dessus, cette question de la mise en scène et du jeu, du respect des valeurs pour mieux faire passer un message dissident. On le retrouve dans toutes les parties de la société chinoise. Et là, en l'occurrence, en partant juste d'un cas particulier, d'un événement particulier apparemment anodin, eh bien, cette lettre cristallise toute la constitution de ce jeu, donc de cette liberté qui revient à chaque individu au sein de cette administration.
Vous avez absolument raison en soulignant cet aspect et je voudrais peut-être prendre quelques instants pour essayer de faire comprendre, de faire prendre la mesure de ce que fait cette femme, membre du parti, en rédigeant cette lettre. Et je voudrais revenir rapidement à la question de la parole en Chine. Je crois que l'on oublie trop rapidement aujourd'hui qu'entre 1949 et 1979, 79, c'est la fin de le principe dit de la lutte des classes en Chine. C'est l'abandon d'un projet totalitaire. Entre 49 et 79, prévaut en Chine vraiment une parole exclusive pour désigner les acteurs, les actions, les situations. Cette parole exclusive prend notamment appui sur un processus d'apprentissage par exemple, de la réforme agraire. La réforme agraire qui se déroule en Chine entre 1946 et 1952 n'est pas tellement importante pour la redistribution des terres auxquelles elle procède, redistribution assez limitée au dire d'historiens chinois actuels, mais plutôt par les moments de récit d'amertume qui ouvrent la réforme agraire. Dans chaque village chinois, quelles que soient les conditions économiques et sociales, des équipes de la réforme agraire arrivent, sélectionnent des individus, procèdent à un processus d'apprentissage des bonnes façons, des façons nouvelles, idéologiquement correctes, de donner sens au passé, puisqu'il s'agit de parler de l'amertume des souffrances passées. Et ces personnes, on leur demande ensuite de prendre la parole lors de séances semi-publiques, puisque ceux qui sont soupçonnés par l'équipe de la réforme agraire n'ont pas le droit de venir, et c'est déjà une forme de terreur qui se met en place à ce moment-là dans les villages chinois. Et donc, tout d'un coup, il y a ces paysans qui font des récits dans le vocabulaire nouveau, et désigne.
On appelle ça des récits d'amertume. Hein.
Absolument, c'est l'expression, c'est la façon de traduire l'expression chinoise. Et ce qui est très important, c'est que pendant ces récits d'amertume, il faut accuser des proches. On n'accuse pas le féodalisme, le bureaucratisme, le capitalisme. On doit accuser des proches, donc des membres du même village, qui incarnent ces grands défauts, capitalisme, féodalisme, oppression, etc. Et donc, il y a en quelque sorte, les débuts du pouvoir communiste en Chine sont très particuliers. Ils sont caractérisés par une sorte d'alliance spécifique entre un système inquisitoire et un système accusatoire. Du côté du système inquisitoire, il y a un dogme qui se met en place, une façon exclusive de donner sens à la réalité, je parle là de choses très concrètes, de donner sens à ce qui se passe dans le village, à qui est mon voisin, mais d'apprécier aussi, de juger de ces acteurs, de ces situations. Le pouvoir politique possède alors des prérogatives très importantes pour sanctionner les individus, pouvoir inquisitoire, mais le Parti communiste chinois mobilise la population à ce moment-là pour qu'au sein de chaque village, de chaque usine, on procède à des face-à-face accusatoires. Qui accuse directement? Ce n'est pas le parti. Ce sont des membres du peuple qui sont mobilisés pour énoncer une parole accusatoire contre d'autres membres du peuple. Et je dirais que c'est parce qu'ils posent cette relation d'accusation qu'il y a un accusé, et eux sont les accusateurs, donc des personnes du fait même de cette accusation qui, en quelque sorte, démontrent leur bon comportement politique. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a vraiment une parole qui ne peut pas être testée, mise à l'épreuve, consolidée, puisqu'il y a une façon exclusive de désigner la réalité. Et ce qui se passe en 79, c'est que tout d'un coup, en janvier 79, le Parti communiste chinois prend une directive et dit « La plupart des ennemis de classe sont rééduqués. On peut donc, comme on dit en Chine, ôter leur chapeau de classe, leur étiquette de classe. » À partir de ce moment-là, ce statut d'étiquette de classe, ce statut qui orientait les destins de chacun au sein de la société chinoise en fonction du statut de classe bon ou mauvais, s'effondre tout à coup. Et ce moment de 79 est également le moment, comme je disais tout à l'heure, d'un abandon, d'une sortie d'un projet totalitaire. L'idée qu'il existe des lois historiques de développement irrésistibles est abandonnée. À partir de ce jour, comme dit Deng Xiaoping, on va avancer en tâtonnant les pierres qui sont au fond de la rivière. Mais c'est néanmoins le même pouvoir politique qui reste en place. Et ce pouvoir politique, tout en ayant donc abandonné cette visée totalitaire, demeure en place. Et les mots créés pendant les trois premières décennies du régime, le sens particulier donné à des mots du sens commun comme paysan, ouvrier, société, ces mots-là demeurent. Leur légitimité n'est pas remise en cause. Les coupables d'hier ne sont pas mis en accusation. On réhabilite les victimes jugées innocentes. et jugé injustement sanctionné hier. Et donc c'est ce processus qui est très particulier parce que depuis 1979, depuis donc le lancement de réformes dites économiques, on assiste au surgissement de réalités tout à fait nouvelles en Chine, mais dont la nouveauté ou la rupture, parce qu'il s'agit d'une véritable rupture par rapport au passé, est niée. Je voudrais juste ici citer les paroles prononcées par le président chinois actuel Xi Jinping en mai 2013, peu après son arrivée au pouvoir, lors d'une allocation prononcée envers des représentants des professeurs des collèges et des lycées en Chine. Xi Jinping a dit la chose suivante. Il y a deux négations qui sont interdites. Il est interdit de nier la période précédant les réformes au nom de la période d'après les réformes. Il est interdit de nier la période d'après les réformes au nom de la période d'avant les réformes. Donc on prétend qu'il y a une continuité, bien sûr, pour asseoir la légitimité du parti. Et en même temps, en prétendant cette continuité, on se trouve véritablement face à une question. Quand je dis « se parler est difficile en Chine », je reviens de passer 3 ans en Chine. Et contrairement à ce que je faisais d'habitude, où j'allais voir pendant 3 semaines, 1 mois, des proches, aller dans des villages, des familles connues, en vivant 3 années en Chine, dans la ville de Tianjin, qui est située à 120 km au sud de Pékin, j'ai été frappée par la difficulté pour les individus, hors milieu d'interconnaissance, tout simplement de se parler, d'être assuré que lorsqu'ils parlent, ils se comprennent et qu'ils vont agir comme ils le disent.
Alors pour comprendre ça, et on va y revenir hein, parce que c'est crucial pour la discussion qui nous occupe aujourd'hui, je vous propose d'écouter, puisque vous l'avez évoqué, un exemple de récit d'amertume. Et avant cela, une archive qui donne à entendre, vous allez voir les voix qui s'expriment, qualifie le système judiciaire chinois de mise en scène, je crois, ou de parodie juridique. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ce que vous constatez, à savoir cette impossibilité de parler librement sur un espace public en Chine, parce que nous sommes toujours sous le joug d'un soupçon qui plane, peut-être compris par cette nécessité en fait de mise en scène du discours qui est imposée par le régime qui, en interdisant disons une certaine utilisation du vocabulaire, va introduire des normes qui viennent réglementer le discours et qui rendent impossible une parole totalement libre. Écoutez.
Le régime chinois est fortement critiqué après qu'un vétéran défenseur de la démocratie, Liu Xianbin, ait été condamné vendredi à une longue peine suite à une soi-disant incitation à la subversion. Un tribunal de la province de Sichuan l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour avoir écrit des articles en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Liu est passé en jugement après 9 mois de détention. Sa femme, Chen Yinchun, se trouvait au procès. Elle dit que le tribunal a empêché à Liu de se défendre.
Liu Xianbin n'avait manifestement pas le droit de parler pendant le procès. Notre avocat a été empêché de le défendre pleinement. La situation a mis Liu en colère et il a seulement dit « Je suis innocent et je proteste ». En fait, le tribunal voulait notre présence pour le spectacle. L'ensemble du processus n'était qu'une mise en scène.
Liu a écrit des articles qui ont été publiés à l'étranger. Certains d'entre eux critiquent le régime communiste pour la médiocre qualité des bâtiments scolaires qui se sont effondrés lors du séisme de Sichuan en 2008. Catherine Beppert, d'Amnesty International, affirme que la peine de 10 ans est scandaleuse. C'est une parodie de justice.
Je suis originaire d'un village. J'ai aujourd'hui 18 ans. Quand j'avais 8 ans, ma famille possédait 3 mous de terre. Les récoltes ne suffisaient jamais à nous nourrir. L'année de mes 9 ans, le temps n'avait pas été bon. Nous n'avons rien pu récolter. Mon père a voulu vendre 8 dixièmes de mou pour pouvoir nous donner à manger. Au village, le despote local Wang Fulin a entendu dire que mon père cherchait à vendre et il est venu nous trouver. Il a proposé quelques sous à ma mère. Elle a refusé et il lui a alors donné des coups sur la tête. Elle est tombée évanouie et a mis très longtemps avant de revenir à elle. Petits et grands, nous sommes restés terrés à la maison pendant plusieurs jours en pleurant. L'année de mes 12 ans, la situation est devenue encore plus difficile. Le 29e jour du 12e mois lunaire, ma mère est partie avec mon frère et ma sœur cadet pour mendier sur les routes. Je suis resté avec mon père à la maison et l'ai entendu parler tout seul. Le propriétaire foncier ne travaille pas. Il reste chez lui assis, bien nourri et bien vêtu, alors que les pauvres qui ont trimé toute l'année se retrouvent le ventre vide au nouvel an. J'en ai vraiment vu assez de cette vie. Tant qu'à être pauvre, autant l'être jusqu'au bout. Et il a été emprunté quelques pièces au propriétaire foncier. Un an après, celui-ci est venu faire les comptes et il nous a demandé de rembourser 4 fois ce que mon père avait emprunté.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à la démocratie à l'international. La démocratie peut-elle tenir ses promesses? Pour répondre à cette question, nous confrontons cette semaine les réflexions théoriques sur la démocratie au cas particulier. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir la sociologue Isabelle Thirault, qui est l'auteur avec Roy Lin-Chan d'un livre intitulé « Les Russes de la démocratie, protestés en Chine » aux éditions du Seuil.
Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diop dénonce, je renonce Mao, Mao.
Isabelle Thirault, continuons à réfléchir à cette question de la démocratie en Chine à travers la prise en compte de l'espace public et donc, et plus précisément plutôt, du langage et de l'utilisation du vocabulaire au sein de cet espace public. Quand on entend un extrait d'un récit d'amertume, hein, là, ici interprété par Jean-Louis Jacopin, on a donc ce personnage qui raconte les misères qu'il a subies lors de son enfance. On sait, puisque vous l'avez dit, que c'est donc une mise en scène de sa souffrance. La plainte devient une espèce de réclamation et un jeu qui est joué. Et justement, qui dit mise en scène dit jeu, dit donc création d'un espace de liberté pour pouvoir contrôler cet espace qui incombe aux citoyens chinois, pour pouvoir faire passer quelque chose qui lui permette de se désaliéner de l'endoctrinement communiste. Et ce jeu-là, c'est peut-être ici où se trouve finalement la meilleure preuve de ce que vous nommez ces germes de la démocratie. Il y a une liberté pour chaque individu de s'emparer librement du langage qui lui incombe. Toute la difficulté étant de savoir comment y parvenir en détournant les codes du pouvoir.
Oui, vous avez tout à fait raison de mettre un peu l'accent sur ce paradoxe, en quelque sorte. Je voudrais revenir sur l'extrait qui vient d'être lu de Récits d'amertume. Il faut bien comprendre que donc ces récits d'amertume étaient prononcés dans chaque village. Et donc, je ne dirais pas qu'ils étaient toujours le fruit d'une mise en scène complète. Il pouvait tout à fait y avoir des paysans qui avaient vécu certains drames avant 1949 et qui étaient tout à fait désireux de prendre la parole. Ce qui est important, c'est plutôt de se dire qu'il ne pouvait pas y avoir de village sans récit d'amertume. Et ça veut dire que, quelles que soient les situations, il a fallu trouver des individus, des récitants, des personnes qui acceptent de prendre la parole pour faire ces récits. Et il a fallu, dans chaque village, trouver des personnes qui puissent être mises en accusation. L'important dans les récits d'amertume, deux questions importantes, montrer que ce vocabulaire nouveau est familier et légitime, puisque des paysans qui prennent la parole en public, quelquefois pour la première fois, l'utilisent comme s'ils l'avaient utilisé toute leur vie. Donc, on légitime un certain type de vocabulaire, mais aussi et surtout, et c'est le plus important, on prend à partie lors des récits d'amertume, non pas fatalement des propriétaires fonciers, des paysans riches. On prend à partie ceux qui, jusqu'ici, participaient à la gestion des affaires communes villageoises, ceux qui étaient entendus dans le village. Donc on défait, on abat les autorités précédentes, quel que soit leur statut, même sur le plan de la lutte des classes. C'est très intéressant que les récits d'amertume prennent, encore une fois, pour cible non pas des personnes les plus âgées, non pas les plus aisées sur le plan matériel, mais simplement ceux qui pouvaient décider jusque-là des affaires villageoises. Mais il y a donc cette question sur laquelle vous avez insisté, qui est importante, d'une parole qui est tout à fait empreinte d'un grand déterminisme, puisqu'il n'y a qu'une façon correcte de donner sens à des situations. Et des situations, vous devinez bien, qui dans différents villages varient beaucoup. Donc même le terme propriétaire foncier qui sera utilisé partout désigne des individus qui possèdent un nombre de terres très différents ou qui ont commis des actes très différents. Du coup, il y a une dissociation entre les mots et la réalité qu'ils sont censés désigner.
Mais le paradoxe, pardonnez-moi, c'est quand même qu'avec cet exercice des récits d'amertume, c'est un exercice qui va viser à liguer chaque individu les uns contre les autres. On est ici dans une désagrégation de tout l'espace public.
C'est la volonté. Ouais. C'est la volonté, c'est comme on dit en Chine à ce moment-là, de renverser la pyramide sociale. Renverser, c'est le moment du grand renversement. Ceux qui ne pouvaient pas parler maintenant parlent. Ceux qui pouvaient parler ne peuvent plus parler. Parce que ces récits d'amertume sont des moments, je dirais, de confrontation orale, semi-publique et non contradictoire. Les mises en accusation, ceux qui sont mis en accusation ne peuvent pas prendre la parole. Ils sont non seulement mis en accusation, mais malmenés. C'est pour ça que les récits d'amertume sont tellement importants. Ce sont eux véritablement qui permettent, avec une emprise, je dirais, de type terroriste sur la parole, au Parti communiste chinois, de prendre le pouvoir dans tous les villages en Chine.
Donc la stratégie pour prendre le pouvoir, c'est quand même de liguer chacun contre chacun.
Voilà, c'est le dévoiement, j'ai envie de dire, d'une ressource. Généralement, j'essaie de ne pas privilégier les compréhensions, je dirais, culturelles ou culturalistes, mais quand la réalité, nous, pour en donner sens, nous impose de nous tourner vers des ressources culturelles, il faut bien sûr le faire. Et je dirais qu'il faut peut-être souligner ici l'importance donnée dans la pensée chinoise à la relation. C'est-à-dire que dans la pensée chinoise, et Han Cheng nous le dit dans ses ouvrages, la relation est considérée comme constitutive des entités qu'elle engendre. C'est-à-dire qu'il n'existe pas deux entités préexistantes à la relation, c'est la relation même qui engendre les deux termes de la relation, on peut dire ça ainsi. Peut-être pour me faire mieux comprendre, je donnerai un exemple. En mars 2012, à Tianjin, je discutais avec un bouquiniste et on parlait des futures élections présidentielles en France. Et il me dit, à propos de la situation en Chine, « Moi, je ne peux pas voter pour le président chinois, je ne suis donc pas un citoyen. » Là où nous aurions peut-être dit plus tôt « Je suis un citoyen chinois, mais mon droit de vote m'est nié. » En Chine, la relation est celle qui, donc, comme je ne peux pas voter pour le président et exercer ce qui fonde la relation entre citoyen et président, comme je ne peux pas agir de la sorte et déplier la relation légitime, qui devrait être légitime, je ne suis pas un citoyen chinois.
Oui, mais c'est presque une analyse logique. La semaine dernière, on parlait de Bertrand Russell, pour lequel, justement, la réalité devait être décrite en termes de relation, voilà, pour être réelle. C'est-à-dire, ce n'est pas Georges est amoureux de Marie, c'est Georges aime Marie.
Exactement.
Il y a un dynamisme et un sens actif à cette phrase-là qui fait que ça influe la conception qu'on se fait du sujet.
Complètement. Et c'est une chose tout à fait, je dirais, qui est une évidence. Je dirais aujourd'hui encore, même pour les citoyens ordinaires.
Mais, ouais, mais juste pour bien mesurer l'importance de cette, là pour le coup, du langage dans la réflexion sur la démocratisation possible de la Chine, rappelez-nous, pourquoi donc les citoyens chinois ne votent pas pour le président ? Comment ça se passe institutionnellement ?
C'est vraiment, ce sont, je dirais, des élections beaucoup plus circonscrites au sein, et des discussions surtout au sein du comité central. C'est collégial, au sein d'un groupe très restreint, il n'y a absolument pas d'élection au niveau national. Absolument pas. Il y a des élections, mais ce serait trop long d'en parler, un peu au niveau villageois, et on réfléchit à des élections à d'autres niveaux, au niveau locaux de l'administration, mais il n'y a pas vraiment, véritablement, du tout d'élections. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que cet homme, à Tianjin, estimait que justement, il ne pouvait pas se considérer comme un citoyen chinois du fait qu'il ne pouvait pas voter et qu'il n'y avait pas cette relation entre électeur et élu.
Ça, c'est une vraie question, celle de savoir, effectivement, à partir du moment où le citoyen ne peut pas voter pour le pouvoir, ça, forcément, on remet en question la notion même de démocratie au sein de ce pays. On se dit que ça, on en est bien loin. Et pourtant, il y a plusieurs façons d'envisager ce que serait une démocratie, pourquoi pas en Chine. Ce que je veux dire par là, c'est que y a-t-il, et c'est une vraie question que je vous pose, des éléments institutionnels, même conventionnels, juridiques en Chine, qui permettraient de penser une forme de démocratie, disons, alternative au modèle démocratique que l'on prône en Occident. Isabelle Thirault.
Je suis relativement optimiste sur le fait qu'il y aura une forme de démocratie en Chine. Je ne vois pas encore vraiment de germe au niveau institutionnel. Bien sûr, on est de plus en plus confronté en Chine à des membres du parti, à des personnes qui travaillent dans l'administration et qui, je dirais, lorsqu'on est en face à face, disent « Bon, c'est pas pour demain, mais il est évident qu'on va vers un système à la taïwanaise. »
Donc, c'est-à-dire
la démocratie telle qu'elle existe à Taïwan, c'est l'horizon pour nombre de membres du parti.
Mais comment est-ce qu'elle existe à Taïwan, la démocratie ?
Notamment au niveau des élections. Enfin, je veux dire, c'est une démocratie qui est tout à fait, selon les critères, entre guillemets, occidentaux.
Ouais.
Absolument pleinement reconnue comme une démocratie, avec l'existence de multipartis, de plusieurs partis, des élections, etc. Mais en dehors de ça, ce que je voudrais essayer de dire, pour revenir à cette question de la parole et de l'importance accordée à la relation, que font, par exemple, les personnes qui aujourd'hui se tournent vers l'administration des lettres et des visites ? La femme dont vous avez cité, lu tout à fait tout à l'heure un extrait de la lettre. Pour nous, il s'agit d'écrire une lettre. En Chine, dans le contexte actuel, il s'agit bien d'interpeller, puisqu'elle écrit au maire de Pékin, d'interpeller une autorité ici municipale. En interpellant une autorité municipale, ou bien le président de la République, nombre de lettres sont adressées à Xi Jinping, hier au Tintao, etc. Il y a donc bien une relation d'interpellation qui est mise en place. Il y a celui qui interpelle et celui qui est interpellé. Il se trouve que dans la situation présente, celui qui interpelle est un gouverné et celui qui est interpellé est un gouvernant. Et donc, cette initiative prise par des citoyens chinois d'écrire une lettre d'interpeller, elle est très importante parce qu'il se donne ainsi la possibilité, en interpellant les autorités, les représentants du parti et de l'État, de dire comment ils positionnent les autorités du parti et de l'État par rapport aux gouvernants et notamment quelles sont les attentes et obligations légitimes des représentants du parti et de l'État par rapport à la société. Que disent les plaignants dans ces lettres ? Ils ne procèdent pas à de grandes théories politiques. Mais ils disent par exemple que ceux qu'ils interpellent, et non pas peut-être les coupables des torts qu'ils ont subis, ceux qu'ils interpellent ont pour obligation, par exemple, d'écouter les plaignants. Ils ont pour obligation, non pas fatalement d'accéder à leurs requêtes, mais de leur donner une réponse, donc de rendre des comptes. Ils ont pour obligation, donc je vous disais, d'écouter les plaignants et d'écouter notamment leur désir de justice. Les plaignants aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas dans les lettres adressées à Mao au début des années 50, les plaignants aujourd'hui disent « Essayez de vous mettre à notre place », en invoquant la commune humanité et en quelque sorte l'égalité qui devrait prévaloir entre ceux qu'ils interpellent, les gouvernants et eux-mêmes. Et en demandant cet possible échange des positions, je dirais qu'ils accomplissent un acte politique tout à fait important. Et ils font un autre acte politique, c'est-à-dire ils essaient de donner un sens à la réalité qu'ils vivent. Et encore une fois, cette question de la langue, elle est très difficile à... Pourquoi on ne s'entend pas aujourd'hui en Chine ? Parce que les mots, on soupçonne que les mots veulent dire des choses différentes, parce que les mots ont voulu dire des choses tellement différentes selon les différentes séquences historiques depuis 1949. Donc on ne sait pas, lorsqu'on parle à autrui, qu'est-ce qu'il retient de sens passé des mots utilisés, des mots tout à fait du sens commun. Donc vous parliez tout à l'heure tout à fait justement de la liberté de parole, mais j'ai envie de dire tout simplement le fait de se parler, de poser une intersubjectivité, de coproduire un sens partagé des réalités que l'on vit au présent, c'est pour moi déjà un acte en quelque sorte politique. C'est déjà créer des repères communs politiques et moraux.
Ce qui peut-être du coup vous fait aller dans le sens de Cheng Guangcheng, dont on va entendre un extrait tout de suite, qui est un dissident aveugle résident aux États-Unis, qui estime que le changement démocratique en Chine est lent, mais irréversible, et cet extrait sera suivi d'une autre voix, cette fois-ci une voix française, le sociologue Alain Touraine, pour lequel, au contraire, la Chine ne peut pas aboutir dans son processus de démocratisation. Écoutez.
Personne ne peut changer le cours de l'histoire, même le gouvernement central, qu'il veuille aller de l'avant ou retourner en arrière. S'il y est forcé, il avancera. Comme disait Marx, les forces productives suscitent des relations productives. Alors si le gouvernement chinois le veut, bien sûr qu'il le peut, mais cela prendra du temps et cela nécessitera le soutien du peuple. Ce qui m'inquiète le plus et qui est aussi la question la plus importante en Chine, c'est l'état de droit. Encore aujourd'hui, il n'est pas respecté. Surtout après mon départ de Shandong, les autorités locales se sont vengées contre ma famille de manière cruelle. S'il vous plaît, pensez-y.
Voyons maintenant. maintenant qu'il est clair que la croissance économique, la modernisation n'entraîne pas nécessairement la démocratie. Il y a des gens, il y a 30 ou 40 ans, c'était la grande thèse de développer l'économie et la démocratie viendra comme la cerise sur le gâteau. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez très bien imaginer que le modèle occidental de société disparaisse plus ou moins ou soit recouvert par d'autres qui seront plus puissants et pour lesquels le concept de démocratie n'existe pas.
Tout simplement.
Ou le concept de liberté d'opinion n'existe pas. Et non. Donc, il n'y a aucune raison de penser que dans 20 ans, les Chinois tiendront un autre langage.
Je vais vous ajouter seulement un mot. C'est que il y a ce système, mais il y a de plus en plus, nous avons beaucoup, beaucoup de documents, des tas de mouvements d'opposition. Il y a des milliers d'occupations de sièges locaux du parti. Il y a des milliers d'occupations d'usines chaque jour.
Oui, oui.
Alors, tout ça, ça monte, mais quand ça arrive au niveau 2, on coupe. Okay. Donc, il ne faudrait pas penser que cette antidémocratie chinoise se développe dans un milieu social qui est amorphe ou qui accepte. Non, grâce au ciel, c'est de la répression.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance.
Adèle Van Rett.
Isabelle Thirault, d'un côté, Chang Wangcheng qui en 2012 lance cette phrase « Personne ne peut arrêter le cours de l'histoire », sous-entendu « Nous allons vers la démocratie quoi qu'il arrive ». De l'autre, Alain Touraine, c'était en 2007, qui lui donc insiste sur le fait que le concept de démocratie est totalement inexistant en Chine. Cette opposition-là m'intéresse particulièrement et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, tout simplement parce que la question se pose de savoir au nom de quoi l'un ou l'autre se prend position quant à l'avenir démocratique de la Chine. Et en travaillant pour les besoins de cette émission, j'ai découvert qu'il y avait notamment, alors je crois que ça s'appelle le congrès de Bangkok, c'est ça, je crois, où la Chine, Singapour et je ne sais plus quel autre pays, Taïwan, je crois, enfin je ne sais pas, ont revendiqué une spécificité culturelle qui les déterminait et qui justifiait totalement le frein ou le refus d'un développement démocratique. En d'autres termes, l'argument dont ils se servent, et ça c'est quand même assez fascinant, c'est la spécificité culturelle, une forme d'essentialisation culturelle de la Chine au nom de laquelle il était impossible de prétendre tendre vers la démocratie. Qu'en pensez-vous de cet argument-là qui est souvent brandi par les Occidentaux pour dire que la démocratie est incompatible avec l'islam? On l'entend souvent dans ce sens-là. Et là, ce sont les Chinois eux-mêmes qui revendiquent cet argument.
Il y a plusieurs remarques à faire à propos des deux extraits que nous venons d'entendre et je ne pourrais pas répondre ou même prétendre pouvoir répondre à tout. Juste quelques points. Alain Touraine parle du régime politique qui existe aujourd'hui en Chine. Donc il parle de l'absence d'espace de parole, d'association. Donc il est évident, quand moi-même j'évoque le terme de démocratie, que je parle d'invention démocratique ou d'attente démocratique, je ne parle pas du régime. Mmh. Je ne parle pas non plus d'une société qui serait démocratiquement organisée avec une attention portée aux droits fondamentaux ou à l'égalisation des conditions. Alors que le premier interlocuteur chinois parle, lui, justement de ce qu'il voit en émergence au sein de la société chinoise, même si cela ne se formule pas toujours en utilisant le terme de démocratie et encore moins, j'ai envie de dire, le terme de droit de l'homme. Deuxième point, vous avez tout à fait raison en disant que le gouvernement chinois essaie de contenir justement ces germes, on va dire, pour aller vite, en disant qu'il y a une spécificité culturelle telle qu'on ne peut pas envisager de démocratisation de la situation chinoise. Je voudrais revenir ici au terme de Pierre Rosanvallon, autour duquel ce colloque a lieu actuellement à Cerisy. Et Pierre Rosanvallon parle bien du caractère indéterminé de la démocratie, de l'indétermination des voies démocratiques, de l'indétermination de l'essence démocratique. Et il montre bien qu'il y aura Il y a plusieurs cheminements possibles pour la démocratie. Donc, je remets en cause tout à fait cette idée que la culture chinoise serait antagonique.
Là, je précise, puisque je l'ai abordé de manière assez vague, c'est la déclaration de Bangkok de 1992 qui est signée par la Chine, Singapour et la Malaisie et qui revendique des valeurs asiatiques. Voilà. C'est ça.
Alors, je crois qu'il
incompatible avec la démocratie.
Il faut vraiment, enfin, pour essayer en tout cas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Chine, mettre complètement de côté cette idée de valeur asiatique, ce qui ne veut pas dire, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qu'il n'y a pas des ressources culturelles légitimes, évidentes en Chine, et qui font que la façon dont s'exprime les attentes démocratiques légèrement différentes. Je reviendrai là aussi très très vite quand je vous parlais de l'importance donnée à la relation. L'importance donnée à la relation, c'est également l'importance donnée à l'action. C'est-à-dire que lorsqu'on interpelle les représentants du parti de l'État, on agit, on exécute une forme de savoir. Il ne s'agit pas d'un discours abstrait, il s'agit d'une prise de parole et on va essayer d'acculer autrui, ici, les représentants du parti et de l'État auquel on s'adresse, dans un coin pour essayer de provoquer une réponse de leur part et une action de leur part. Ce que je voudrais dire par là, c'est que avec cette importance mise sur la question de la relation, c'est également une importance mise sur la question de l'action et même des actions tout à fait anodines. Il faut regarder plus les actions quotidiennes de citoyens et moins attendre peut-être aujourd'hui de grands discours théoriques abstraits qui viendront de certains, mais qui, si on ne regarde que cela, et ils sont très importants, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de ces espaces publics intermédiaires. J'ai travaillé pendant 2 ans sur une place publique à Tientsin, où chaque soir à 19h, une centaine de personnes se réunissent pour accomplir un certain nombre d'exercices physiques. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans le détail du déroulement des interactions sur cette place, mais ce sont des exercices qu'on accomplit en pouvant, si on le souhaite, se parler. Et les personnes qui se rejoignent sur la place disent « nous faisons ensemble ». Donc nous accomplissons ces exercices, c'est l'idée de faire ensemble. Il n'y a pas de liste du groupe. Chaque personne qui arrive sur la place ce jour-là, un inconnu, un anonyme, peut se joindre à nous et tout simplement, en accomplissant les exercices, montrer son appartenance pendant quelque temps à ce groupe. Mais ce qui pouvait apparaître au départ comme un lieu, comme bien d'autres, les places publiques en Chine, où on s'exerce au Qigong, au Tai Chi, m'est apparu rapidement comme, en fait, comme un lieu de parole important. Un lieu où justement on apprend à essayer d'établir la bonne distance avec des personnes que l'on ne connaît pas. Ce rassemblement existe depuis 20 ans en Chine. Donc coexistent chaque soir des gens qui sont là depuis 19, 15, 13 ans et des gens qui sont là depuis hier ou avant-hier et qui doivent apprendre certains égards mutuels, certaines formes de civilité, une bonne distance, j'ai envie de dire, une bonne distance qui n'est pas simplement une bonne distance physique pour accomplir les exercices, mais un peu une bonne distance ou un bon intervalle, un peu au sens arendtien du terme. Et il y a véritablement là une façon de se parler. Pour être plus précise, j'ai réalisé sur cette place que parler à autrui, c'était s'exposer à autrui. Et que la parole aujourd'hui encore est beaucoup plus que je ne l'imaginais une menace pour soi-même. Les gens vous disent « ne parle pas aux autres sur la place, tu ne sais pas ce qu'ils disent, tu ne sais pas ce qu'ils pensent réellement par rapport à ce qu'ils disent, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce que tu leur dis. » Donc il y a à la fois ceux qui viennent sur la place depuis 20 ans et qui ne parlent jamais à autrui, qui observent néanmoins tout ce qui se passe, et il y a ceux qui ne cessent de parler du début à la fin.
Mais là, ce que vous décrivez, c'est l'impossibilité de la constitution d'un espace public en Chine.
Tout à fait.
Le dialogue lui-même est axé de méfiance et de suspicion.
Donc, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que cet espace est à la fois un espace où ce soupçon est mis en évidence, mais c'est également un espace où ce soupçon est endigué. Parce que c'est un espace où certains dépassent cette présomption de malveillance mutuelle et essaient de se parler, créent une sorte de confiance limitée pour parler ensemble. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent sur la place en disant « je lis la presse, je vais sur Internet, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, une femme m'a dit, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. » Ça veut dire que ces moments de face-à-face sont très importants pour essayer ensemble, donner un sens commun au monde environnant et s'entendre sur ce qui compte ou pas pour tous.
We'll be right back.
Chinese Democracy, c'est avec les Guns N' Roses que nous nous quittons. Isabelle Thirault, un grand merci à vous d'être venue nous parler des efforts, des élans, des germes peut-être démocratiques en Chine. Renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Les Russes de la démocratie protestée en Chine », un ouvrage coécrit avec Juan Lin Chan, disponible aux éditions du Seuil. Et puis, puisque cette semaine est en partenariat avec le colloque de Cerisy, qui porte sur la démocratie en travail autour du travail justement de Pierre Rosanvallon, j'annonce qu'on peut vous entendre ce vendredi, hein, vendredi 19 septembre après-midi. Sur quel thème portera votre intervention ?
Eh bien, voilà, les espaces, les tentatives de voie de démocratisation en Chine aujourd'hui, dans les espaces de parole que j'ai essayé d'évoquer avec
voilà,
vous.
Donc pour tout ce que vous n'aurez pas réussi à développer dans ce court temps qui vous était imparti, ces 50 minutes, eh bien, les auditeurs pourront aller vous écouter directement. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors cette semaine, quatre autres invités du colloque consacré à Pierre Rosanvallon, qui se tient donc en ce moment même à Cerisy, évoquent pour nous un enjeu de la démocratie à partir de leur propre intervention à ce colloque, dont le thème, comme vous l'avez rappelé Adèle, porte sur la démocratie en travail. Aujourd'hui, place au sociologue spécialiste de sciences politiques, Yves Saint-Omer, qui a établi l'édition critique de La domination de Max Weber aux éditions La Découverte, mais aussi auteur de Petite histoire de l'expérimentation démocratique, également aux éditions La Découverte.
Et à quelle question a-t-il répondu ?
Eh bien, il a répondu à cette question, Adèle, en quoi le travail que la démocratie doit mettre en œuvre est-il un travail de pluralisation ?
C'est Pierre Rosanvallon qui a employé ce terme de pluralisation des voies de la légitimité démocratique. Et c'est une piste extrêmement intéressante, dans la mesure où l'idée est d'aller au-delà des conceptions courantes constitutionnelles de la démocratie qui font reposer la légitimité de celle-ci sur les élections d'un côté et puis la division des pouvoirs de l'autre. Ce n'est pas évidemment que les élections et la division des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire ne soient pas importantes. Mais cela permet de voir qu'à côté, il y a plein d'autres dispositifs, plein d'autres mécanismes, plein d'autres dynamiques qui comptent pour la légitimité d'un système politique comme le nôtre et qui ont varié dans l'histoire. Que par exemple, les négociations entre syndicats et patronat, à un moment donné, les partenaires sociaux ont pu jouer un rôle aussi très important. Que, par exemple, aujourd'hui, la montée en puissance des autorités administratives est quelque chose de tout à fait fondamental. Que le développement de mécanismes de démocratie directe ou participative peut aussi représenter quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est de penser la démocratie au-delà de ce qu'on a tendance spontanément, dans une perspective constitutionnaliste, à penser.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la démocratie. La démocratie peut-elle tenir ses promesses en partenariat avec le colloque qui se tient en ce moment même à Cerisy sur la démocratie en travail autour de Pierre Rosanvallon. Demain, je recevrai Johan Ockhant, maître de conférence à l'EHESS et chercheur au centre Raymond Aron, qui viendra se demander si les démocraties scandinaves sont vraiment le modèle que l'on veut en faire en France. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.